Donc, je commence d'abord en lisant dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 20, les versets 20 à 23. Simplement, avant de le lire, j'évoque le fait que ces versets suivent immédiatement la troisième annonce de la passion par Jésus. Je vous ai dit ce matin que Jésus annonçait trois fois de suite sa passion. Ce matin, on a entendu la première dans saint Marc. Là, cet après-midi, on entend la troisième dans saint Matthieu. Enfin, on est après, juste après la troisième annonce. Alors, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit: Que veux-tu? Elle répondit: Voilà mes deux fils. Ordonne qu'ils siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Ils lui dirent: Nous le pouvons. Il leur dit: Ma coupe, vous y boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. Voilà, donc une scène peut-être un petit peu étonnante. Jésus vient d'annoncer pour la troisième fois qu'il allait mourir, qu'il allait donner sa vie. Et voilà que cette maman et ses deux fils viennent demander à Jésus d'avoir des bonnes places. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors, ça tombe bien, quelque part, veillez pour notre méditation, hier et aujourd'hui et ce matin, je vous ai beaucoup parlé de Pierre. Alors, cet après-midi, ce sera un peu les deux autres qui fonctionnent souvent avec Pierre, Jacques et Jean. Hein, souvent, il y a plusieurs passages de l'Évangile où c'est Pierre, Jacques et Jean. Un peu comme si c'était la garde rapprochée de Jésus. Donc voilà, on a vu Pierre. Là, on a les deux autres, Jacques et Jean. Ceux-là, ils sont un petit peu inséparables. Et peut-être que la première réflexion qu'on peut se faire en voyant cette maman, en voyant ses deux fils, c'est qu'on se dit, franchement, ils n'ont rien compris. Souvent, c'est comme ça qu'on réagit d'ailleurs un peu avec les disciples. Les disciples, un peu comme Pierre ce matin, ils sont à contre-temps. Jésus vient d'annoncer sa passion pour la première fois. Pierre qui lui dit: Dieu t'en garde, Jésus, ça t'arrivera pas. C'est malin ça, Pierre. Tu viens de dire à Jésus qu'il est le Messie et maintenant tu essaies de lui faire la leçon. Ça va pas. Alors peut-être qu'on pourrait se dire c'est la même chose pour Jacques et Jean. Jésus vient d'annoncer sa passion. Jacques et Jean, ils n'ont rien de mieux à penser que de demander à Jésus les meilleures places. Ils n'ont rien compris. Pire que ça, ils sont même pas capables de le demander par eux-mêmes. Ils envoient la maman. Franchement. Alors, c'est une manière de comprendre les choses et à vrai dire, ce serait assez bien la manière de comprendre les choses quand on lit ce même épisode, mais dans l'évangile de saint Marc au chapitre 10. Hein, puisque cet évangile, il est raconté à la fois dans saint Marc et dans saint Matthieu. Donc dans saint Marc au chapitre 10, on voit bien que Jacques et Jean, ils sont un peu décalés. Même franchement décalés, ça va pas. De toute façon, en général, dans l'évangile de Marc, les disciples, c'est vrai que souvent, ça va pas. Dans l'évangile de Matthieu, c'est pas tout à fait pareil. Et là, je vous propose, ce sera peut-être une manière un peu différente de lire cet épisode, je vous propose, on va dire, de donner à Jacques et Jean le bénéfice du doute. Est-ce que vous voulez bien? Non, mais parce que quand même, Jacques et Jean, avant de se moquer d'eux, c'est quand même de bons gars. Si on lit après les actes des apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait, Jacques et Jean? Jacques, c'est quand même le premier des 12 apôtres à être mort martyr. C'est pas le premier martyr, c'est Étienne le premier martyr. Mais parmi les 12 apôtres, c'est le premier. avoir été martyrisé par le roi Agrippa, dans le chapitre 12 des Actes des Apôtres. Bon, Jacques, il est allé jusqu'au bout du don de sa vie. Donc si on se moque de lui, faut qu'on soit bien sûr d'être prêt de faire comme lui, hein, jusqu'au bout. Et puis Jean, toujours dans les Actes des Apôtres, eh bien c'est le premier des témoins de la résurrection avec Pierre. Hein, les Actes des Apôtres, après la Pentecôte, nous racontent que Pierre et Jean montent au temple. Qu'est-ce qu'ils font au passage d'ailleurs? Ils guérissent le gars qui se trouve à l'entrée. Et puis, ils parlent dans le temple, tous les deux, Pierre et Jean. Ils sont arrêtés, ils se font taper, et ils ressortent là, tout contents d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Vous voyez, donc, Pierre et Jean, voilà, ben, peut-être qu'au moment de l'agonie, c'était un petit peu plus flottant, je vous l'accorde. Mais n'empêche qu'après, ils ont été effectivement parmi ces premiers témoins de la résurrection, mais les témoins de la résurrection au sens où ils ont payé de leur personne. Jean, il a été le premier maltraité, on pourrait dire, au nom de Jésus, et Jacques, le premier à avoir été tué au nom de Jésus. Et puis, au fond, est-ce que leur demande est complètement déplacée? Ou la demande de la maman? Bon, je m'attarderai pas trop longtemps sur la question de la maman. Ben, j'en parlerai un petit peu quand même. Siéger à droite et à gauche de Jésus dans son royaume, est-ce que c'est une mauvaise demande? Ah, c'est pas si facile que ça. J'évoque deux ou trois passages de l'Évangile qui ressemblent. Si on revient dans l'Évangile de Marc, à un moment, effectivement, les disciples sont en train de discuter en chemin, en catimini. Et quand on arrive à la pause, Jésus leur demande « Et de quoi discutiez-vous en chemin ?» Et l'évangéliste saint Marc nous dit, il ne voulait pas lui répondre, parce qu'en chemin, ils avaient discuté pour savoir qui était le plus grand. Donc sous-entendu, ce n'est pas une très bonne question. Dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 18, le début du chapitre 18, les disciples de Jésus posent la même question, mais sauf que c'est dans l'autre sens. C'est pas du tout en catimini. On nous dit à un moment, les disciples s'approchent de Jésus et disent à Jésus, « Seigneur, qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Est-ce que Jésus leur dit, « Vous êtes qu'une bande de nouilles, vous avez rien compris ?» Non, si Jésus avait dit ça dans l'évangile, vous l'auriez noté. Non, Jésus leur dit, non, Jésus commence par, petit toi, viens ici. Mets-toi au milieu, là. Ok, les amis, vous voulez être le plus grand dans le royaume des cieux? Eh bien voilà, vous faites comme lui. Comme ce petit enfant. Jésus répond à la question des disciples. Si vous voulez être grand dans le royaume des cieux, au fond, vous avez raison de vouloir être grand dans le royaume des cieux. Le chemin, c'est le chemin de ce petit enfant. Être comme ce petit enfant. Vous voyez, Jésus ne dit pas « Ne cherchez pas à être grand dans le royaume des cieux. » Il dit plutôt « Ok, cherchez à être grand dans le royaume des cieux, mais le chemin à prendre, c'est quoi ? C'est le chemin des enfants. » Vous voyez, je crois que c'est intéressant de se faire cette réflexion-là. J'espère, au fond, que vous avez envie d'être grand dans le royaume des cieux. Vous voulez être grand dans le royaume des cieux? J'espère. Attendez, ça pose un problème si vous vous dites « Moi, je voudrais être plus grand que mon voisin dans le royaume des cieux. » Non, ça ne va pas. Si c'est toujours un petit peu ce ressort de l'orgueil qui fonctionne et qui fait que vous avez envie d'être un petit peu mieux que les autres, ça non. Ça, c'est pas possible. Mais si votre désir, c'est d'être à fond dans le royaume des cieux, c'est d'être, d'y être vraiment. Vous voyez, pas d'avoir un peu plus d'honneur que les autres et tout ça. Mais d'être vraiment avec Jésus, d'être pleinement avec lui, d'être pleinement engagé. En fait, que notre vie soit vraiment tournée vers lui. Alors là, oui, c'est un beau désir. Et surtout, ne remettez pas le couvercle sur ce désir que vous avez d'être grand dans le royaume des cieux. D'ailleurs, si je reviens à mon histoire de Jacques et Jean, ce que je trouve très intéressant aussi dans ce passage, c'est que ce dialogue est quand même très bizarre. Donc, la maman demande, voilà, ordonne que Jacques et Jean siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume, et Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? On s'attend à ce que la réponse soit quoi ? Ben, franchement, si Jacques et Jean y répondent oui, on va pouvoir boire la coupe que tu vas boire, Jésus, il est coincé. En fait, la question de Jésus, elle marche si Jacques et Jean y répondent, bah oui, effectivement, la coupe que tu vas boire, on va pas y arriver, mais quand même, on aimerait bien. Et sauf que le problème, c'est que Jacques et Jean, ils se démontent pas. Ok, ouais Jésus, la coupe que tu vas boire, on est prêt à la boire. On a tous compris ce que ça voulait dire, hein, la coupe de Jésus. Où est-ce qu'elle va revenir, la coupe de Jésus ? Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Hein, la coupe, c'est clair pour tout le monde, et Jacques et Jean, pas plus que leur maman, d'ailleurs, ne sont pas idiots, et ils ont très bien compris que la coupe que Jésus va boire, c'est la croix. Donc Jésus leur dit clairement, et d'ailleurs il vient d'annoncer pour la troisième fois sa passion, les amis, est-ce que vous êtes prêts à souffrir la passion avec moi ? Jacques et Jean, oui, nous le pouvons. Alors vous allez me dire, bah, la suite leur donnera tort, puisque au moment de l'agonie, ils ne seront pas plus là que les autres. Enfin, la suite leur donnera raison aussi. Puisque, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, Jacques et Jean, effectivement, vont boire la coupe de Jésus. Pas du premier coup, d'accord, mais la deuxième fois, après la Pentecôte, effectivement, ils iront jusqu'au bout du don d'eux-mêmes dans le témoignage pour Jésus. Donc, vous voyez, Jacques et Jean, alors peut-être qu'ils sont un petit peu présomptueux, un petit peu, mais pas tant que ça, on ne va pas se moquer d'eux, on n'est pas là pour les juger. Jacques et Jean, peut-être que d'abord, ils expriment leur désir de suivre Jésus. Il ne faut pas dire trop vite qu'ils n'ont pas compris. Moi, je crois vraiment que quand Jésus leur dit « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils ne sont pas idiots. Ils ont pesé le pour et le contre et ils ont dit « Oui, Seigneur, même si nous devons mourir avec toi, on est prêt à y aller. » Et même si je vais un petit peu plus loin, vous pourriez me poser la question de la maman. Là, pour celle d'entre vous qui êtes maman, là. La maman de Jacques et Jean, elle savait ce qu'elle demandait à Jésus ? Ordonne que mes deux fils qui sont ici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Alors là, je vois des têtes qui répondent, ben non, elle ne savait pas ce qu'elle demandait. Mais Madame Zébédée, elle est comme les autres, elle vient d'entendre la troisième annonce de la Passion. Madame Zébédée, elle a suivi Jésus depuis un petit moment. Elle a bien entendu que le chemin qui était proposé, c'était le chemin de la mort et de la résurrection. Elle peut vouloir ça pour ses enfants ? Moi, je pense que oui. D'ailleurs, Madame Zébédée, elle apparaît que deux fois dans l'Évangile. Là, c'est la première fois qu'elle apparaît. Vous savez où est la deuxième fois qu'elle apparaît ? Au pied de la croix. Au pied de la croix, dans l'Évangile de Matthieu, il y a trois femmes. Marie de Magdala, Madeleine, la mère de Jacques et Joseph, bon, on en parlera une autre fois, et la mère des fils de Zébédée. C'est dans l'évangile de Matthieu. Dans les autres évangiles, vous avez des listes un petit peu différentes. Dans l'évangile de Jean, vous avez le disciple bien-aimé et la mère de Jésus. Hein, mais dans l'évangile de Matthieu, Madame Zébédée, elle est là au pied de la croix. Elle a bien compris que l'appel, pour elle, comme pour ses fils, c'était d'aller jusqu'au bout du don de sa vie. Et donc Jacques et Jean, je reviens à Jacques et Jean, on leur pose la question, est-ce que vous allez boire la coupe que je vais boire ? Et ils répondent, eh bien oui, nous le voulons. Alors on pourrait s'attendre à ce que Jésus leur dise, écoutez les petits cocos, vous êtes bien gentils, vous êtes généreux, mais en fait, vous n'allez pas y arriver. Un peu comme ce que Jésus a fait avec Pierre, d'ailleurs, hein. Au moment de son dernier repas, Jésus dit aux disciples, « Ce soir, vous allez tous m'abandonner. » Pierre, il fait un peu le même coup que Jacques et Jean. « Non, non, même si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. » Qu'est-ce que Jésus lui répond ? « Pierre, avant même que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Jésus aurait pu faire pareil avec Jacques et Jean. « Vous êtes bien gentils. Avant que le coq chante, vous m'aurez même pas renié, vous serez déjà partis. » Et Jésus ne les détrompe pas. « La coupe que je vais boire, vous la boirez. » Vous voyez, Jésus connaît le cœur de Jacques et Jean. Jésus connaît le cœur de ces deux hommes. Et il sait que ces deux hommes, qui ont un fort tempérament par ailleurs, dans Saint-Marc, on les appelle les Boanerges, Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Vous voyez, ces deux pêcheurs bien costauds là, qui étaient déterminés de tout leur cœur à aller à la suite de Jésus, même s'il fallait mourir, même s'il fallait se battre pour Jésus. Ils se sont dit oui, s'il faut boire la coupe avec Jésus, nous le pouvons. Ils demandent à siéger à droite et à gauche de Jésus. Dans l'évangile, il n'y a que 2 fois où cette expression, ces mots, à droite et à gauche, arrivent. Au moment de la demande de la maman, là, ordonne que mes 2 fils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ou est-ce qu'on dit encore dans l'évangile, l'un à la droite et l'autre à la gauche ? Ben oui, quand Jésus est crucifié, effectivement, il y a une place à droite et une place à gauche. Elles étaient prêtes pour Jacques et pour Jean, ces 2 places. À ce moment-là, ils n'y sont pas arrivés. Après, dans la suite, ils ont pu suivre Jésus. Voilà, donc, quelques remarques sur ces deux hommes. Vous voyez, bon, moi, c'est ma lecture, en tout cas, de Jacques et Jean. Une lecture plutôt positive de la demande de leur maman, plutôt une lecture positive de leur désir de suivre Jésus. On peut continuer à avoir cette lecture aussi un peu négative en disant, bon, vraiment, ils n'ont pas compris. Mais peut-être que cette lecture positive, elle peut nous aider, au fond, à nous identifier à eux. Parce que, nous avons nos faiblesses, mais, bon, d'une manière ou d'une autre, on peut ressembler à Jacques et Jean, non ? On ressemble à Jacques et Jean parce qu'on a envie de suivre Jésus. Enfin, franchement, si on est là, c'est qu'on a envie de suivre Jésus. On a envie de dire à Jésus, « Mais oui, même si le chemin que tu me demandes est exigeant, je veux le suivre. » On a un petit arrière... Voilà, peut-être qu'effectivement, on sait que ce ne sera pas si facile que ça, et on sait que notre fidélité, elle pourra être éprouvée. Et peut-être que justement, pourquoi est-ce que Jacques et Jean viennent voir Jésus ? C'est pour essayer de s'encourager. Mais Seigneur, c'est aussi une espèce d'appel au Seigneur. Mais Seigneur, ordonne que mes 2 fils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. C'est aussi une manière de dire, mais voilà, c'est vraiment ce qu'on veut. On voudrait boire la coupe avec toi. Et en même temps, on sait que ce ne sera pas facile pour nous. Mais si tu nous dis oui, venez siéger à ma droite et à ma gauche, si tu nous dis oui, venez et offrez votre vie avec moi, peut-être qu'on va y arriver. Peut-être qu'on peut lire aussi ce passage finalement comme une espèce d'appel de Jacques et Jean pour dire, mais Seigneur, aide-nous à rester vraiment à ta droite et à ta gauche. Et voyez, là aussi, ça peut nous rejoindre. Jésus, aujourd'hui, tu donnes ta vie pour nous. Aujourd'hui, nous avons marché avec toi, peut-être que nous avons vécu le chemin de croix tout à l'heure, peut-être que nous avons vu nos faiblesses, nos petitesses. Seigneur, vraiment, ordonne, demande, prie pour que je puisse rester à ta droite, à ta gauche, que je puisse rester près de toi, maintenant, dans ton royaume, au moment où tu offres ta vie pour nous. Alors, voilà pour quelques remarques, vous pourrez continuer à méditer sur cette figure, et puis, je vous le propose, je vous propose quelques attitudes ou quelques démarches spirituelles qui peuvent nous aider, nous aussi, à suivre Jésus, doux et humble, dans sa passion aujourd'hui, à partir de la lecture de Jacques et Jean. Première attitude, peut-être que je vous invite à développer, c'est vivre vraiment l'abandon. L'abandon, ou pour utiliser un autre mot que je vais commenter tout de suite, une forme d'indifférence. Alors le mot indifférence, c'est un mot qui est connoté un petit peu négativement. Quand je parle d'une indifférence, c'est surtout pas une indifférence par rapport à Jésus ou par rapport à notre prochain. Mais vivre l'abandon ou l'indifférence, c'est vivre une vraie disponibilité à la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, pour moi. Dans Jacques et Jean, je vous disais tout à l'heure, ils ont bien compris ce que ça voulait dire, la coupe que je vais boire. La coupe que je vais boire, c'est la passion. Ils ont bien compris, mais quelle forme est-ce que la coupe de Jacques et Jean, elle va prendre? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils vont devoir mourir sur la croix? Aucun des deux n'est mort sur la croix. Jacques, il a été décapité. Jean, je vous passe les détails, on ne sait pas très bien, parce qu'il y a plusieurs Jean, donc bon. Mais de fait, ni l'un ni l'autre ne savaient ce qu'allait prendre, quelle allait être la forme du don de soi jusqu'au bout qu'ils allaient devoir vivre. Et c'est un vrai enjeu pour nous aussi, une indifférence, mais une indifférence, voyez, par rapport à la manière dont Jésus va nous appeler à donner notre vie. Parce qu'au fond, chacun de nous, je crois qu'on a une petite idée quand même. Hein. Seigneur, je veux bien te suivre, quelle que soit ta volonté, mais enfin, si ta volonté c'était ça, ce serait pas mal, non? Et encore, voire même parfois, c'est encore pire. Seigneur, ah oui, je te suivrai jusqu'au bout. Je te suivrai jusqu'au bout, sur ce chemin, parce que j'ai bien compris que ma vocation, c'était ça, ça, ça et ça. Donc je te suivrai, enfin... D'ailleurs, non, Seigneur, tu veux bien me suivre dans mon projet? Non, mais parce que mon projet, il est beau en plus. Hein. Et donc, voilà, en fait, le mieux, Seigneur, ce serait que tu me suives dans mon projet, non? C'est comme ça qu'en fait, on fera le maximum de bien, non? T'es pas d'accord, Seigneur? Bon, hier, je vous rappelais cette petite phrase, hein, si vous voulez faire rire le Seigneur... Bon, il y en a plein qui n'étaient pas là hier, alors. Parlez-lui de vos projets. Hein? Vous voyez, l'indifférence, c'est exigeant, très exigeant, consiste à vraiment déposer nos projets devant le Seigneur. Seigneur, si ta volonté, c'est pas ce que j'avais prévu, je veux bien m'y rendre disponible. Ça me frappe de temps en temps, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des gens qui... Pourvu que le Seigneur m'appelle pas à ça, c'est souvent un signe. Hein. Ça finit par arriver. Ah oui, il y en a qui sourient, ça leur est arrivé. Hein. C'est ça. Et non, ça marche pas à tous les coups. Hein. Mais voilà, en fait, il faut, si on veut vraiment avoir cette démarche dans laquelle Jacques et Jean peuvent nous entraîner, hein, la vraie disponibilité, le vrai chemin finalement, c'est de demander au Seigneur, au fond, cette grâce d'une vraie indifférence par rapport à sa volonté sur nous. Ce qui empêche parfois et souvent même le Seigneur de travailler dans notre cœur, c'est qu'en fait, on a trop d'idées sur ce qui est bon pour nous. Je ne dis pas que nos idées sont mauvaises. Hein. Jacques et Jean, ils avaient plein de bonnes idées. Mais on a comme cette attitude à développer dans laquelle finalement on dit au Seigneur, mais bon, voilà, j'ai mes idées, peut-être qu'elles sont bonnes, peut-être qu'elles sont moins bonnes. Seigneur, permets-moi de faire comme un espèce de vide, de passer par cette phase un peu d'indifférence dans laquelle je peux être vraiment disponible à ce que tu veux me donner, au chemin que tu veux me proposer. C'est la phrase que Jésus redit dans l'agonie, hein, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est au fond ce que nous redisons. J'entends plus régulièrement, et je trouve ça beau, des personnes qui disent, mais dans la prière du Notre Père, Il y a deux phrases qui bloquent dans la prière de notre Père. Il y a ceux qui ont du mal avec « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ». Bon, je ne reviens pas là-dessus. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont du mal avec, je pense que c'est la deuxième demande du Notre Père, non, la troisième demande, « que ta volonté soit faite ». Que ta volonté soit faite. On l'a dit souvent un petit peu vite, cette prière. Que ta volonté soit faite. Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons? Ou est-ce que c'est pas toujours un petit peu notre Père qui est aux cieux, que ma volonté soit faite? Donc voilà, vivre cet abandon, cette indifférence par rapport à la volonté de Dieu. Deuxième attitude, toujours un peu dans la foulée de ce que Jacques et Jean nous proposent, je dirais une purification, demander la grâce d'une purification de notre volonté. Et ce matin, je commençais à évoquer l'importance d'avoir une vraie volonté. Je disais dans l'Évangile, peut-être vous avez médité là-dessus, celui qui veut venir à ma suite. Les amis, si nous ne voulons rien, Jésus ne pourra rien faire. Et il ne s'agit pas simplement d'écouter, il faut commencer par écouter, bien sûr. Il faut commencer par accueillir la grâce de Dieu, c'est toujours la première chose. Et après, il faut se mettre en mouvement, il faut exercer notre volonté. Puis c'est le pape François, je crois, qui disait qu'à un moment, il fallait mettre les chaussures de marche et sortir de notre canapé. Cette image, elle est parlante, parce que souvent, on est un peu des chrétiens de canapé. Oh oui, enfin, on est tout à fait d'accord avec le Seigneur. Mais quand il faut commencer à marcher, à faire quelque chose, à vouloir, à nous engager, c'est parfois un petit peu plus difficile. Mais donc, la volonté. Mais au moins, Jacques et Jean, je trouve que c'est beau, parce que, pour le dire un petit peu familièrement, c'est des gars qui en veulent. Et c'est des gens qui sont déterminés. Oui, s'il faut y aller, eh bien on va y aller. Et ils y sont allés. Et voilà, donc nous aussi, ce matin, je nous ai invités à ça. Est-ce que vous voulez, c'est d'ailleurs la question que Jésus pose à la maman, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous relèverez, si vous voulez, dans l'Évangile, dans la première partie de l'Évangile, Jésus pose souvent la question, croyez-vous? Au centurion de Capharnaüm, c'est la question de la foi, que tout se passe pour toi selon ta foi. Les deux aveugles qu'on a aussi à Capharnaüm, au chapitre 9 de l'évangile de Matthieu, croyez-vous que je peux faire cela pour vous? Et si on avance dans l'évangile, Jésus change de question, ou change de remarque. À la cananéenne qui demandait la guérison de sa fille, Jésus lui dit plus que tout se passe pour toi selon ta foi, mais Jésus lui dit que tout se passe pour toi. Alors parfois c'est mal traduit, parfois il y a marqué selon ton désir. En réalité, en grec, c'est que tout se passe pour toi comme tu veux. Les deux aveugles de Jéricho, Jésus ne leur demande pas « croyez-vous que je peux vous guérir ?» Les deux aveugles de Jéricho, dans Matthieu, ou Bartimée, dans l'évangile de Marc, qu'est-ce que lui demande Jésus? Que veux-tu que je fasse pour toi? Voyez, un petit peu comme si dans la première partie de l'évangile, Jésus nous invitait à croire, et dans la deuxième partie de l'évangile, Jésus ne nous invite pas à renoncer à notre foi, bien sûr, mais dans la foi, à vouloir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu veux avancer? Donc nous voulons, mais l'enjeu, c'est aussi que notre volonté soit comme purifiée. Parce qu'une fois que nous voulons avancer à la suite de Jésus, et c'est très bien, est-ce que c'est bien la volonté de Dieu que nous voulons? Jacques et Jean, est-ce que ça marche? Jacques et Jean, on va dire que oui, ils veulent. Mais peut-être que faut accepter que la volonté de Jacques et Jean soit un petit peu réorientée. Est-ce que Jacques et Jean ont complètement compris? Ce matin, je vous ai dit, Pierre, c'était 10 sur 20. Jacques et Jean. Oui, c'est pas très généreux. 11 sur 20, j'entends devant moi. Bon, vous lui mettez. Non, mais c'est pas. Il n'y a pas de notes. Non, on n'est pas à l'école. Mais vous voyez que certainement, il y a quelque chose Oui, d'un peu mûri. On a avancé quelques chapitres dans l'évangile encore. Et pourtant, voilà peut-être que l'étape pour eux, c'est comme une espèce de purification ou de réorientation de leur volonté. Mais il ne s'agit pas de... Et je trouve ça beau d'ailleurs, Jésus ne les refroidit pas. Ce matin, c'était un peu refroidissant quand même, Jésus, il faut reconnaître. Hein, passe derrière moi Satan. Non, passe derrière moi Satan, cela dit, ça veut dire remets-toi derrière moi pour marcher à ma suite. Hein. Jacques et Jean, il y a un peu de ça aussi. D'accord, et c'est très bien que vous vouliez. Est-ce que vous voulez vraiment me suivre dans la passion? Est-ce que vous êtes prêt à tout pour ça? Vous voyez, et donc de demander à Jésus qu'il vienne purifier notre volonté. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'une fois qu'on s'est mis à la suite de Jésus, et je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes mis à la suite de Jésus en fait. Mais le risque, c'est que parfois, quand on suit Jésus finalement, on part lui en tête. Et puis on inverse un petit peu les choses. Voilà, on est à fond dans notre service. Voilà, pour ceux d'entre vous qui êtes engagés dans un service, dans une paroisse, dans une communauté, dans l'église, est-ce qu'on accepte que notre volonté soit aussi réorientée? C'est un vrai acte d'humilité. Et cette espèce de docilité, mais continuer à vouloir, à être déterminé dans notre engagement à la suite de Jésus, et en même temps accepter, ben voilà, que comme des enfants, on nous remette dans la bonne direction. Est-ce que là où j'en suis, j'accepte que ma volonté, en fait, ce soit quand même une volonté qui reste toujours docile à la volonté de Dieu, telle que le Seigneur me le montre. Ça, en général, ça va à peu près. Mais quand le Seigneur se sert de tel ou tel pour me la montrer, c'est parfois un petit peu plus difficile. La purification de ma volonté. Et troisième chose, troisième attitude, je nous invite, peut-être pour prolonger ce que Jacques et Jean nous proposent de vivre, à entrer dans une véritable logique de l'amour. Et me dire, c'est quoi le rapport avec Jacques et Jean, là? Peut-être que, justement, bon là c'est peut-être mon interprétation, hein, mais peut-être que justement la logique de Jacques et Jean, c'était encore une logique, un petit peu virile ou militaire. Vous voyez, il y avait un petit peu de ça. Bon, oui, Jésus, on est prêt, on y va. Voilà, moi je ne sais pas comment vous imaginez Jacques et Jean, mais Jacques et Jean, ils devaient être, même au niveau physique, ils n'étaient pas des petits gringalets comme moi, quoi. Enfin, ils avaient des épaules bien costauds, etc. Des pêcheurs du lac de Tibériade, ça devait être du costaud. Moi je pense que quand Jésus il se baladait avec Pierre, Jacques, Jean et André, il y avait un petit peu de respect quand même, hein, parce que quand on voyait les quatre armoires à glace à côté de Jésus, on se tenait un petit peu en respect. Ben oui, c'est vrai. Enfin, c'était des hommes, etc. Et bon, c'est super. Et peut-être que justement, pour Jacques et Jean, la passion de Jésus, et j'aime bien ce mot de passion, on célébrera l'office de la passion tout à l'heure, c'est la logique de l'amour. Mais vous voyez, mais d'un amour, pas un amour sentimental, enfin, mais un amour qui se donne. Peut-être que Jacques et Jean, ils voulaient se donner, mais ce qui leur don d'eux-mêmes était peut-être pas encore complètement comme infusé, transporté par cette logique de l'amour. Et dans cette purification, peut-être, de la volonté de Jacques et Jean, ce qu'il fallait pousser jusqu'au bout, c'est cette espèce de transpercement du cœur par l'amour de Dieu. Quand Jacques et Jean disent « Oui, nous sommes prêts à boire la coupe », je crois qu'ils sont prêts à donner leur vie, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore compris jusqu'au bout que le don qu'ils avaient à vivre, c'était un don qui était à vivre par amour. Et c'est peut-être ce qui leur a manqué, au moins cette étape de l'Évangile, lorsqu'ils n'ont pas su aller jusqu'à la droite et à la gauche de Jésus, sur les deux croix qui étaient prêtes pour eux, c'était que leur amour n'était pas encore totalement purifié. Alors nous aussi, c'est peut-être ce que nous avons à vivre, hein, entrer dans cette logique de l'amour. de cet amour jusqu'au bout. Cette logique de l'amour qui consiste d'abord à nous laisser aimer, pour ensuite aimer pleinement. Ce matin, pour ceux qui étaient là, je vous invitais à cette attitude de ce voilà, Seigneur, permets-moi, enfin, acceptez que je sois aimé tel que je suis, mais cet après-midi, je voudrais vous inviter à aller plus loin encore. Est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout de cette miséricorde de Dieu, de cette logique dans laquelle j'accepte pleinement de me laisser aimer, pour pouvoir aimer en retour et aimer d'un amour qui va jusqu'au bout du don de moi-même. Nous sommes ici dans ce lieu de Parelmonial. Certains d'entre vous, vous êtes tellement familiers de ce lieu que ça peut devenir un petit peu presque routinier. Pour ceux d'entre nous qui avons la chance de pouvoir être ici en pèlerinage à Parelmonial, c'est par excellence le lieu où nous pouvons rentrer dans cette logique de l'amour. La coupe que nous avons à boire avec Jésus, avec Jacques et Jean, ce n'est pas une autre coupe que la coupe de l'amour, que la coupe de la miséricorde. Est-ce que nous sommes prêts à boire cette coupe dans laquelle, vous voyez, nous nous laissons remplir pleinement de la miséricorde de Dieu ? Et nous sommes tellement transformés, comme Marguerite Marie, par la miséricorde de Dieu que, en fait, même pas simplement nous aimons, mais nous sommes transformés dans l'amour. Nous sommes remplis de cet amour de Dieu qui fait que nous brûlons de charité et que nous donnons notre vie finalement presque naturellement par amour, sans même y penser, parce que nous sommes comme transportés, traversés, illuminés par cet amour de Dieu. Les mots ne suffiront jamais à dire la réalité de ce que nous pouvons vivre d'une manière particulière ici à Parelmonial, cité du cœur de Jésus, cité de la miséricorde de Dieu, entrer dans cette logique de l'amour. Avec Jacques et Jean, peut-être que nous peinons encore un peu à nous livrer entièrement à la miséricorde de Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans ce mystère pascal, alors que nous voyons le cœur de Jésus transpercé sur la croix, nous pouvons plonger plus avant dans cette miséricorde. Quatrième attitude que je vous propose, et en particulier cet après-midi, qui est une attitude qui est peut-être, dont je pense nous n'entendons pas assez parler, qui est l'amour de la croix. Ce soir, dans l'office de la Passion, nous pourrons vénérer la croix, et, ce qui veut dire, au fond, exprimer notre amour, non seulement pour Jésus, mais aussi pour cet acte de Jésus qui étend les mains sur la croix pour nous. Jacques et Jean, ils sont prêts à boire la coupe que Jésus va boire, en tout cas ils l'affirment, et au fond, ça veut dire que s'ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils prétendent, qu'ils veulent la croix, qu'ils aiment la croix. Cette croix, parfois, elle nous fait peur. Cette croix, parfois, elle nous rebute. Et c'est normal. C'est normal que nous ayons ce premier mouvement, parce que nous ne pouvons pas aimer en tant que telle la souffrance. Nous ne pouvons pas chercher la mort. Mais lorsque nous contemplons Jésus qui donne sa vie par amour sur nous, pour nous, sur la croix, nous sommes aussi conduits mystérieusement à l'amour de la croix. À l'amour non pas de la souffrance, mais à l'amour de cette souffrance qui sauve. Et nous pouvons être plongés dans ce mystère dans lequel finalement cette croix ne devient plus ce qui nous fait peur, ce qui nous effraie, mais ce que nous intégrons et que nous pouvons aimer. Ce mystère, il ne faut pas le traiter à la légère, parce qu'on pourrait, voyez, avoir une vision doloriste de notre foi, de notre relation au Seigneur, et c'est certainement pas l'enjeu. ici en particulier à Paray-le-Monial, nous pouvons plonger peut-être plus avant dans ce mystère. Nous l'avons célébré peut-être un petit peu avec leur sainte aussi hier, dans lequel nous sommes conduits, au fond, à aimer la croix, et peut-être même à aimer la souffrance, lorsqu'elle devient une souffrance d'amour, une souffrance rédemptrice. Encore une fois, il ne s'agit pas de chercher la souffrance pour elle-même. Il ne s'agit pas, vous voyez, d'entrer dans une perspective un petit peu janséniste, un petit peu masochiste, qui est profondément mortifère. Mais lorsque le Seigneur nous propose ce chemin, nous pouvons aimer cette croix. Et pour certains d'entre nous, certainement, la croix fait partie du mystère de votre vie. Peut-être la croix fait partie de votre quotidien, par cette souffrance personnelle que vous vivez, ou par cette souffrance intime que vous devez supporter jour après jour dans votre famille, en raison d'une situation qui est un vrai chemin de croix pour vous. Il ne s'agit surtout pas de traiter à la légère cette souffrance, mais peut-être de demander la grâce de la vivre avec Jésus, de la vivre en offrande, de la vivre par amour. Ce chemin, c'est un chemin qui est toujours à reprendre, un seul chemin sur lequel il peut y avoir aussi des moments de révolte, des moments où c'est plus possible. Mais le chemin de l'amour de la croix est un chemin qui est authentiquement chrétien et un chemin qui est peut-être aussi celui qui, mystérieusement, a la plus grande fécondité. Nous savons en réalité que celui qui sauve le monde, c'est Jésus, mais que nous participons avec Jésus au salut du monde lorsque nous nous unissons à la croix de Jésus. Je complète en ma chair, dit saint Paul, ceux qui manquent aux souffrances du Christ, non pas parce que Jésus n'aurait pas souffert assez, mais parce que mystérieusement, Jésus peut nous inviter à nous associer très étroitement, intimement même, à son amour pour nous, amour qui est manifesté par le don de sa vie sur la croix. Enfin, et ça, cette invitation, je voudrais l'adresser à tout le monde, Jésus nous invite à être, d'une manière ou d'une autre, les témoins de sa miséricorde, témoins de la miséricorde. Il ne s'agit pas simplement, avec Jacques et Jean, d'accueillir l'amour de Dieu et de vivre une démarche personnelle, individuelle. C'est peut-être aussi quelque chose qu'il faudrait purifier chez Jacques et Jean, si effectivement ils avaient une volonté de se singulariser par rapport à leurs autres condisciples. D'ailleurs, si vous lisez le passage suivant, vous verrez que ça remue un petit peu dans le groupe des 12. Les 10 autres s'indignèrent de la démarche de Jacques et Jean. Au contraire, l'enjeu de cette démarche qui nous rapproche de Jésus comme Jacques et Jean, c'est d'être davantage les témoins de sa miséricorde. Si nous vivons cette démarche de Jacques et Jean pour nous distinguer des autres, ça ne va pas. Et on arrête tout de suite. Si nous vivons cette démarche de Jacques et Jean pour dire au Seigneur, « Mais Seigneur, permets-moi d'être plus près de toi, permets-moi d'être davantage encore dans ton royaume et dans ton amour pour pouvoir être davantage un témoin de ta miséricorde pour mes frères. » Alors là, nous sommes au cœur de l'Évangile. Nous ne pouvons rien retenir pour nous. Se rapprocher de Jésus, c'est être davantage donné à nos frères. Témoin de la miséricorde. Témoin de la miséricorde, c'est pas simplement être capable de dire à sa boulangère « Jésus t'aime », même s'il faut le faire, et c'est une bonne chose. Mais témoin de la miséricorde, c'est comme être transformé en l'amour de Dieu. Jacques et Jean, c'est peut-être ce qu'ils demandent, ou ce qu'ils devaient demander, ou ce à quoi ils aspiraient sans en être complètement conscients. Mais c'est être complètement transformé en l'amour de Dieu, pour pouvoir en rayonner. Et de fait, ils l'ont fait. Alors nous aussi, d'une manière ou d'une autre, si nous nous plongeons ce soir dans le mystère de la croix, Ce n'est pas simplement pour vivre un moment d'intimité personnelle avec le Seigneur. Si nous plongeons dans ce mystère de la croix, dans le mystère de l'amour de Dieu, c'est pour être profondément transformé et rendu témoin vivant de la miséricorde de Dieu. Témoin par ce que nous sommes, témoin, j'allais dire, par notre visage, par nos mains, par nos jambes, par notre cœur, par toute notre personne, par tout notre corps, de l'amour de Dieu. Jacques et Jean, j'espère, je pense, au fond, en un certain sens, que c'est ce qu'ils ont cherché à vivre, se livrer à l'amour de Dieu, à la miséricorde de Dieu, pour être les témoins de la miséricorde, et à leur manière, après la mort et la résurrection de Jésus, ils l'ont vécu. Alors voilà, deux figures, Jacques et Jean, après avoir vu un petit peu la figure de Pierre, qui peuvent nous entraîner cet après-midi, ce soir, dans cette suite de Jésus, doux et humble. Je rappelle simplement donc ces cinq attitudes que je vous proposais, qui peuvent, voilà encore une fois, choisissez-en une peut-être, que vous demandez comme grâce au Seigneur, vivre l'abandon, l'indifférence, par rapport à la volonté de Dieu pour moi. Une deuxième attitude, demander une purification de ma volonté en étant docile à ces réorientations que le Seigneur me propose. Une troisième attitude qui est de rentrer dans la logique de l'amour profondément. Une quatrième attitude qui est cet amour de la croix. Et enfin une cinquième attitude, une invitation à être ces témoins de la miséricorde. Voilà, encore une fois, peut-être laissons résonner, soit en allant marcher un petit peu, nous promener, soit en restant un moment en silence, ici ou ailleurs, soit dans le sacrement de la miséricorde, soit dans d'autres démarches que nous pouvons faire pour que nous puissions avancer sur ce chemin, nous préparer aussi à vivre cet office de la passion, de l'amour de Dieu que nous pourrons vivre ce soir.